8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines en cette fin de semaine et pour passer un bon week-end. Chronique d'outre-tombe avec un croque-mort bien vivant. Qui connaît dans le fond les détails pratiques du monde des funérailles quand on n'a pas soi-même tutoyé la mort d'un membre de sa famille immédiate? Bonjour Sébastien Monteau.
Bonjour.
Vous êtes employé de pompe funèbre et nous vivons une époque où chacun dans sa corporation a envie de partager son quotidien. Hein. Cuisinier notamment, vous auriez pu donc être le youtubeur des cercueils. Ça aurait peut-être fait désordre pour la clientèle, alors vous publiez tout simplement votre feuilleton de la douleur humaine, avec une grande décence, pas mal d'humour aussi, et votre regard sur la mort est à la fois juste et décalé. Dans nos sociétés occidentales, les rites pour accompagner nos proches dans leur dernier voyage sont souvent réduits au strict minimum. Alors dans cet assèchement du symbolique, votre métier a le mérite d'exister, du porteur au maître de cérémonie, du marbrier au thanatopracteur. Que raconte finalement la vie de ceux qui ont fait de la mort leur métier et dont les pratiques commerciales sont aussi parfois dénoncées? Chez 8 milliards de voisins, en tout cas bien vivants, vous êtes notre invité. On est ravis de vous accueillir.
Je suis ravi d'être là.
Et en fin d'émission, on fera le voyage en sens inverse, je dirais, avec notre série Le Monde des Enfants, disponible aussi en podcast. Aujourd'hui, ils ont entre 9 et 10 ans, ils sont béninois, et ils imaginent, au micro de Charlie Dupiot, la vieillesse.
8 milliards de voisins.
On échange.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Sébastien Monteau, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous répondez en général par une devinette.
Ouais, j'aime bien faire deviner mon métier. Parce que les gens, du coup, ne me connaissent pas. Ils me voient tout sourire et donc je leur dis que mais je travaille dans l'événementiel.
Ouais.
Du coup, ils sont super intéressés. Alors, ils disent, ah, c'est super.
Peut-être les mariages.
Ouais, les concerts, tout ça, de fait, les paillettes, les lumières. Et je dis, oui, donc je suis dans l'organisation. Du coup, t'es wedding planner, c'est ça? Je dis, c'est presque ça. J'organise un événement qui ne se passe qu'une fois dans une vie. Il dit, oui, c'est ce que je dis, t'es wedding planner. Mais non, en soi, on peut se marier plusieurs fois dans une vie. Et là, de suite, on prend conscience. Et la personne, je le vois dans ses yeux, elle a envie de le dire, mais elle se dit, c'est pas possible. Non, ça fait un quart d'heure que je le vois, il est tout sourire, c'est pas possible. Et là, la réponse tombe, elle me dit, mais t'es croque-mort? Je dis, ben oui. Bon, j'ai quand même 5 minutes à convaincre la personne que je le suis vraiment. Mais sinon, ça, en fait, il se dit, ça colle pas du tout avec le personnage et à l'image que je lui ai renvoyée en discutant avec lui 5 minutes. Du coup, ça m'amuse beaucoup.
Pourquoi donc? Parce que vous êtes à peine trentenaire, même pas, non?
Mais parce que déjà, je pense que je suis jovial et que dans ce métier, apparemment, d'après certains clichés, il faut être absolument triste pour le faire, ce qui est totalement faux. C'est même tout le contraire. Le sourire, j'en parle dans le livre, mais c'est un bagage essentiel. Ça renvoie beaucoup, beaucoup de choses.
Enfin, quand même, employer des pompes funèbres quand on a, vous avez quoi, 26, 27 ans maintenant?
Vous êtes gentil. 31.
Quand on a 31 ans, employer des pompes funèbres, il fallait y penser, surtout que ça fait déjà quelques années.
Mais surtout que j'y suis depuis que j'ai 24 ans.
Oui. Vous racontez qu'il y a pas mal d'employés assez jeunes, d'ailleurs, comme vous, à exercer ce métier. C'est peut-être plus facile de côtoyer la mort quand elle est extrêmement loin de votre réalité?
Ben, ça a été ma surprise aussi, parce que quand je suis moi rentré dans les pompes funèbres, ben, je m'attendais, comme tout le monde, à voir, je sais pas, des gens, des cinquantenaires peut-être. Et en fait, j'avais des collègues de travail qui étaient à peine plus âgés que moi, qui avaient justement ben, l'âge que j'ai aujourd'hui, une trentaine d'années. Et ça m'a interpellé, évidemment. Et du coup, je posais des questions, mais comment t'es arrivé là, toi? Pourquoi t'es là? Et je me suis rendu compte que tous les horizons étaient très différents. Il y avait des gens qui venaient vraiment de partout. Et alors, ce qui était super intéressant, parce qu'en plus, chacun avait son expérience qu'il pouvait apporter aux autres dans le relationnel. Chacun avait une manière d'aborder les choses. Et ça a créé finalement une belle équipe.
Vous êtes arrivé là, bon, d'abord par un stage, mais qu'est-ce que vous avez tout de suite aimé dans les pompes funèbres?
Ce que j'ai aimé, en fait, je me suis rendu compte de toute l'utilité qu'on avait. Outre le fait que bon, la mort, c'est sûr, ça ne fait rire personne, même si on peut en rire. Je me suis rendu compte du rôle essentiel qu'on avait. Et une famille est entrée dans une agence une fois. Elle avait, donc là, les obsèques étaient déjà réglées. Je crois qu'elle devait régler une dernière chose avec le conseiller funéraire. Et en fait, elle est partie en disant « ben merci beaucoup, en tout cas, Et ça m'a interpellé. Je me suis dit merci beaucoup. Alors, au début, je me suis dit, mais peut-être qu'ils se connaissent. Non, non, c'était des gens, des clients, entre guillemets. Et je me suis dit, ouais, c'est... ils disent merci.
Mais tout de même, on ne vend pas des cercueils comme on vend des canapés.
Non, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, au début, j'étais parti pour faire la formation de conseiller funéraire. Et c'est ce côté-là qui m'a...
Ça, c'est quand on est dans l'agence et qu'on déplie les catalogues de cercueils.
Tout à fait. Alors avant ça, évidemment, il y a des étapes. Il y a ce qu'on appelle vraiment la découverte famille. Donc, faut pas imaginer que les gens rentrent dans l'agence et on leur dit, voilà, choisissez. Non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, il y a un rôle qui est très psychologique déjà.
Et plusieurs métiers, finalement.
Il y a plein. Il y a des porteurs, il y a des thanatopracteurs, il y a des conseillers funéraires, des marbriers, des fossoyeurs, des agents funéraires. Il y a énormément de métiers différents où chacun a sa spécialité. De toute manière, ça ne serait pas possible de tout faire. Et voilà, chacun est cantonné à son rôle. Mmh. Et le conseiller funéraire, c'est justement la première personne que rencontrent les gens quand ils passent l'agence. Sauf qu'évidemment, il ne va pas leur déplier le catalogue sous le nez de suite. Ils ont besoin d'être compris. Donc, on les installe dans un bureau. On essaie déjà de les calmer. Parce que des fois, il y a certaines personnes, c'est compliqué. Même de s'exprimer. Donc, s'ils ont du mal à s'exprimer, déjà, ça va être compliqué d'organiser quelque chose. Et le but, c'est de leur dire, nous, on est là pour vous aider. Dès le début, on est dans l'accompagnement. Ce n'est pas réservé au maître de cérémonie. C'est vraiment dès le conseiller funéraire. Et c'est lui qui va partir à la découverte de cette famille, comprendre ce qu'il souhaite, qui était le défunt, où est-ce qu'il se trouve, ce qu'il souhaite, est-ce que c'est une cérémonie religieuse, est-ce que c'est une cérémonie civile, et toutes les questions qui s'en suivent. Et viendra après le moment du choix du cercueil.
Dans un pays comme la France, la mort est très encadrée par des règles administratives. C'est vraiment bienvenu dans le monde de la paperasse, certains diront. Des tracasseries administratives, quand on n'a pas la tête à ça, d'autant plus. Il y a les certificats de décès, les actes de décès, le transport du défunt avant la mise en bière. Donc la mise en bière, c'est quand
La mise en bière, c'est mettre le corps dans le cercueil. Le cercueil est aussi appelé une bière. D'ailleurs, je le dis dans le livre, donc ça vient du nom de béra, qui était une sorte de civière avec laquelle parfois on enterrait les morts. Et en fait, le terme est resté, béra est devenu bière. Et donc la mise en bière, c'est mettre le corps dans le cercueil.
Et à chaque fois, pour l'admission en chambre funéraire aussi, pour se recueillir, ou l'autorisation de fermeture de cercueil, à chaque fois, il y a un formulaire à remplir.
Ouais,
c'est ça.
C'est ça. Après, il y a déjà un pouvoir famille. Le pouvoir famille, ça va être le papier qui dit « La famille, j'autorise cette société à faire les démarches. » Voilà. Donc, ce sont nous les mandataires, en fait. Et tout est soumis à chaque fois à signature, etc. Donc, des soins de conservation, un papier. Une admission en chambre funéraire, un papier. Un transport, un papier.
Ça peut sembler étonnant, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'enjeu réel de sécurité. On n'est pas à l'hôpital, ce n'est pas de la médecine. On n'essaye pas de faire survivre les gens.
On n'essaie pas de les faire survivre, mais ça reste un corps. Ça reste sacré, en fait. D'ailleurs, même plus loin que ça, quand les gens choisissent une crémation et quand on récupère une urne, concrètement et physiquement parlant, on récupère des cendres. Mais aux yeux de la loi, c'est un corps. Juridiquement parlant, les cendres ont la même valeur qu'un cercueil.
Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, c'est ce que vous expliquez dans le livre, on n'a pas le droit de séparer des cendres.
Non.
Par exemple, des gens qui aimeraient que leur père, qui était binational, par exemple, que les cendres soient dispersées sur deux pays.
Légalement, on n'a pas le droit. C'est une demande qui est très très courante. Les gens nous demandent, mais parce que voilà, soit le caveau familial est là et cette personne adorait cet endroit et a toujours dit, moi je veux être là, mais je veux aussi être par exemple avec mes parents qui eux sont inhumés ici. Et là, comment on fait? Et du coup, les gens choisissent une crémation et quand on leur remet l'urne, nous on les informe de ce qui est légal et de ce qui ne l'est pas. C'est comme garder l'urne chez soi, par exemple. Et ensuite,
ça, on ne peut plus garder une urne chez soi. Aujourd'hui, en France, c'est interdit. Ça a été autorisé.
Ça a été autorisé, mais on n'a plus le droit de le faire. Et encore une fois, il n'y a personne qui va venir sonner chez vous pour, excusez-moi, on vient juste vérifier que vous avez bien l'urne de monsieur ou madame Untel. Donc en soi, les gens font ce qu'ils veulent et il y a plein de gens qui dispersent les cendres. Mais je peux comprendre cette démarche. Je peux le comprendre.
Alors, si on disperse les cendres dans la mer, par exemple, il faut que ça soit à une certaine distance du littoral.
C'est ça.
Que les cendres sont parfaitement solubles dans l'eau de mer, il faut le préciser.
Ouais. Alors, il y a plein de choses dans le funéraire où il faut un petit peu omettre la logique. Mais c'est minimum à 300 mètres des côtes, c'est soumis à réglementation. Pareil, il faut prévenir la mairie à chaque fois, etc., etc. Alors que la mairie, en soi, vous me direz, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de savoir qu'une urne qui a été dispersée à 300 mètres de là? Voilà, c'est la loi.
Comment vous avez vécu la période du Covid avec justement les cérémonies empêchées, les jauges aussi pour limiter le nombre de participants?
Ça a été la période la plus terrible. Alors, tout d'abord pour les familles, évidemment, et aussi pour moi en tant que maître de cérémonie, je me demandais, mais est-ce que je ne vais pas devoir faire une reconversion? Parce que comment on peut être maître de cérémonie quand il n'y a plus de cérémonie? On devient maître de rien du tout, en fait. Et moi, donc je ne peux même plus passer de musique, je ne vais pas faire des discours, j'ai personne en face de moi. Ou alors j'ai trois personnes. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et encore, quand j'avais trois personnes, c'était bien. Ça voulait dire qu'on avait autorisé trois personnes à être là, ce qui n'était pas toujours le cas. Et donc moi, de ma place, c'est vrai que j'ai mal vécu les choses parce que je m'y retrouvais plus, je n'avais plus ce sentiment d'utilité justement qui me pousse à continuer chaque matin. Mais surtout, je me mettais à la place des familles et je me sentais démuni parce que je me suis dit « je ne peux pas les aider ». On leur a enlevé ce besoin essentiel d'entamer leur deuil.
8 milliards de voisins et de voisines.
Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin.
Vous allez nous raconter ce que c'est qu'exactement ce métier de maître cérémonie dans les pompes funèbres. C'est vrai que quand on aborde la question des funérailles dans un pays développé comme la France, ou en Europe ou en Amérique du Nord, tout de suite, les gens parlent de l'argent que ça coûte parce que le prix moyen de la mort, d'abord, est devenu élevé, grosso modo depuis les années 90. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les obsèques sont touchées par l'inflation?
Bien sûr. Tout augmente.
Et pourquoi?
Et alors que ce soit les restaurants, les voitures, les obsèques, tout. Alors pourquoi? Je ne saurais pas vous dire. Honnêtement, je ne suis même pas sûr d'avoir envie de le savoir. Parce que moi, j'essaie de rester le plus loin possible de ça, même si je sais que les gens, ça m'est arrivé d'entendre des conversations où les gens ont fait un devis il y a 5 ans. Et ils reviennent pour refaire le devis, le mettre à jour. Et en fait, tout a augmenté, que ce soit le cercueil ou même les démarches administratives.
Oui, vous dites dans la mort, tout est payant, tout trajet, toute action. Le tarif, il est aujourd'hui quasiment impossible d'avoir des obsèques à moins de 2000 euros. En France, le prix moyen avoisine les 3500 euros. Et il peut aller jusqu'à 20 000 euros, 40 000 euros ou même 100 000 euros.
Donc là, on reste dans des choses évidemment qui sont extrêmes. Ça va être vraiment des personnalités et des obsèques vraiment, pour le coup, en grande pompe. Après, des obsèques à moins de 2000 euros, c'est possible. Mais ça reste compliqué parce que oui, tout est payant. Mais en fait, c'est presque comme une voiture. Il y a des options.
Le succès de la crémation, c'est en partie aussi parce que ça coûte moins cher?
Je pense que ça joue. C'est en train de rentrer dans les mœurs aussi. Alors ça doit être certain pour certaines
croyances. La place dans un caveau, du coup, est forcément réduite, donc moins onéreuse. Hein.
Exactement, parce que dans un caveau, il y a des caveaux, donc 4 places, 6 places, 8 places ou davantage. Mais quand il n'y a plus de place, les gens demandent s'ils peuvent mettre une urne. Et il n'y a pas de réglementation là-dessus. C'est-à-dire un caveau, il n'y a pas écrit, attention, pas plus de 10 urnes. Je vais le dire comme ça, mais
et
c'est le cas.
Pas obligé de
tant
mettre...
que ça rentre, on peut en mettre.
On n'est pas obligé de mettre l'urne dans un caveau, hein, puisque les cendres peuvent être dispersées.
Tout à fait. Il y a même aussi, il y a des caveaux pour urnes, qui s'appellent d'ailleurs des cavurnes. Ce sont comme des caveaux, mais qui sont faits spécialement pour les urnes. Il y a aussi des cases de columbarium, c'est ces petites cases, on peut en rentrer des fois une ou deux, selon la taille de l'urne. On les voit d'ailleurs dans tous les cimetières, c'est en train de vraiment se banaliser. Et c'est une bonne chose aussi, ça reste un point de recueillement pour les gens qui ne voulaient pas, par exemple, disperser les urnes et qui n'avaient pas de caveau familial. Mmh. Un caveau restant, ou un columbarium restant moins onéreux qu'un caveau pour mettre des cercueils.
Alors, on découvre évidemment beaucoup de choses dans vos chroniques d'outre-tombe, hein, notamment le métier du thanatopracteur, hein, puisque tout le monde sait bien que le corps est apprêté pour ne pas se décomposer, etc. C'est celui qui rend le corps visible, qui le rend acceptable, notamment en remplissant le corps de formol. C'est vraiment, enfin, la façon dont vous décrivez ce métier, c'est le chirurgien esthétique de la mort, quoi.
Mais c'est complètement ça. Et ça fait partie des métiers que je trouve extraordinaires, des métiers, pour le coup, de l'ombre, parce que moi, maître de cérémonie, je dis qu'on fait partie des métiers de l'ombre, mais les gens ont un contact avec moi à un moment donné.
D'ailleurs, il vous appelle Sébastien.
D'ailleurs, il m'appelle Sébastien. Les thanatopracteurs, en fait, ils font le travail, mais personne ne sait qui c'est. On ne sait pas quel âge avait la personne qui a fait ça. Est-ce que c'était un homme, est-ce que c'était une femme? Et c'est un travail qui est incroyable parce que ça permet, je le dis dans le livre, de rendre la mort acceptable. C'est souvent une peur chez les gens, d'ailleurs. Quand je viens les voir, que je leur dis, voilà, la mise en bière est faite, vous pouvez venir vous recueillir, ils ont toujours cette peur de, est-ce que je vais le reconnaître? Ou la reconnaître? Et d'ailleurs, bien souvent...
C'est toute la mission du thanatopracteur.
Ils disent aux autres, j'y vais en premier et je viens vous dire. En gros, les gens sont dans l'attente de savoir est-ce qu'on va le reconnaître pour ne pas avoir cette image erronée. On préférera garder celle qu'on avait en tête plutôt que voir quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Et le métier du thanatopracteur, toute sa beauté est là. La personne voit son défunt, elle l'a rendu paisible, elle l'a rendu vraiment apaisée. On dirait qu'elle dort. Et là, du coup... Les gens, on peut même l'entendre. Ils sont soulagés de ça. Parce qu'ils disent, oh là là. Et d'ailleurs, on entend des fois, oh, elle est belle. Ou il est beau. Oh, c'est, vous pouvez venir. Oh, qu'elle est belle. Et ça.
C'est incroyable parce qu'on sent votre propre émotion quand vous racontez ça.
Ouais, parce que je me mets à la place des gens. Et même moi, si je ne connaissais pas la personne, dans ma tête, je me dis, j'espère vraiment qu'ils vont la reconnaître. Parce que je sais que s'ils ne la reconnaissent pas, ce qui peut arriver. Là, c'est compliqué.
Ouais, parce que... C'est mal parti pour le reste de la cérémonie, c'est ça.
Oui, c'est mal parti pour le reste de la cérémonie. Mais des fois, c'est un petit détail. C'était, ils nous demandent, et vous pourrez demander au thanatopracteur, enfin, la personne qui maquillera, de lui mettre ce rouge à lèvres parce que, bon, elle était coquette, elle adorait ou ce maquillage, ou surtout avec ses lunettes, ou son béret, peu importe. Et en fait, voilà, il faut vraiment que ça ressemble à la personne. On dirait, il faut qu'elle dorme, en fait, tout simplement. Il faut qu'elle parte en paix.
C'est ça, ouais. C'est la Belle au bois dormant, sauf que le mort ne se réveillera pas. Vous le disiez, vous êtes maître des cérémonies. Ça commence déjà, vous disiez, la mise en bière, hein, c'est-à-dire le moment où on met le corps dans le cercueil. Oui. Alors le corps, soit on l'a pris, il est à la morgue, hein, soit il est dans la maison où la personne est décédée. Ce moment-là, la famille n'a pas le droit d'être là. Il n'y a que les professionnels, c'est-à-dire vous, les porteurs, qui sont dans la pièce pour déplacer le corps et le mettre dans le cercueil. Pourquoi donc ?
Alors, est-ce qu'il y a un texte qui dit « la famille n'a pas le droit d'y assister » ? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, nous, on le
c'est
fait.
C'est l'usage.
Mais voilà, nous, on le fait. Moi, je préviens la famille et je leur dis voilà, on va faire la mise en bière.
Pourquoi ?
Je vous laisse patienter à côté. Parce que c'est de la manipulation et ce n'est pas une vision qui est agréable à regarder. Mais déjà, parce que c'est dans une housse mortuaire. Qui, elle, est obligatoire. Et puis, voilà, on va soulever le corps. La manipulation, des fois, peut être difficile. Si la personne, je dis n'importe quoi, mais ça peut arriver, fait 140 kilos, ça sera moins facile que quelqu'un qui en pèse 50. Donc, des fois, on doit composer avec ça. Alors, évidemment, dans la plus grande des douceurs. Mais ce n'est pas forcément une vision que je conseille aux gens. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui ne m'a demandé en 8 ans, mais non, moi, je veux voir la mise en bière. En fait, ils le comprennent et ils le savent. Et eux-mêmes n'ont pas envie de le voir. Et je leur dis, voilà, quand la mise en bière est terminée, on en a pour une dizaine de minutes, je reviens vers vous. Et là, donc en fait, là, le corps est déjà mis en bière, donc là, il est apaisé. Il est passé de tel endroit à tel endroit. On n'a pas vu l'entre-deux, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
C'est le début de votre rôle, hein, de maître de cérémonie, et ensuite...
De mettre en valeur le défunt, déjà. Ouais. Pareil, la mise en bière, faut s'appliquer. Faut bien remettre les vêtements, que la tête soit droite, la tête pas trop haute, pas trop avachie. C'est hyper, hyper important. Faut surtout pas sous-estimer l'aspect visuel. D'ailleurs, ce qui fait suite à la mise en bière quelques minutes plus tard, c'est la fermeture du cercueil. Alors, quelques minutes plus
tard... Ce sont des images qui vont rester gravées à vie, hein, dans la tête des proches.
Ouais. Alors, je dis quelques minutes plus tard, mais si, par exemple, une présentation en salon funéraire, le corps peut être mis entre guillemets, en exposition pendant 2 jours. Et la fermeture du cercueil intervient plus tard. Mais au moment de la fermeture de cercueil, pour moi, c'est le moment le plus difficile des obsèques. Au-delà des discours, au-delà des musiques, au-delà de l'inhumation ou de la cérémonie religieuse ou civile, c'est le moment le plus difficile. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier contact visuel. Et quand ça arrive, on se dit, là, je vais plus le ou la voir. Je verrai plus ce trait, ce petit sourire.
D'autant plus qu'on n'a pas l'habitude des cercueils vitrés comme dans certains pays.
Hein. Ouais, non, là c'est... Et puis alors, pareil, la fermeture de cercueil, je fais en sorte, et les porteurs le savent, que ça soit de la manière la plus douce possible. C'est-à-dire, à mon signal, quand je leur fais un petit signe de tête, c'est pas, poum, ils mettent le couvercle et on visse. Non, faut que ça soit doux. Et c'est souvent... compliqué pour les familles. Il y a des gens qui ont du mal à nous laisser refermer, mais ce qui est normal.
Vous disiez que vous faites des discours. À quel moment ? Dans quelles circonstances ?
Alors, quand j'écris...
Parce que moi, je n'ai jamais vu de personnel des pompes funèbres prendre la parole autrement que pour donner un détail pratique sur l'enchaînement de ce qui allait se passer après une cérémonie religieuse, par exemple.
La plupart des cérémonies, 9 cérémonies sur 10, on suit une trame. Donc, on a une intro qu'on peut évidemment peaufiner selon les circonstances. Et on est davantage dans l'accompagnement. Ça reste, entre guillemets, toujours la même chose.
Mais dans une cérémonie, par exemple, religieuse à l'église, c'est le prêtre qui parle.
Voilà, ça, c'est lui
qui s'en occupe.
Nous, on intervient à l'entrée et à la sortie. Pendant la cérémonie paroissiale, c'est l'équipe paroissiale qui s'en occupe. Et ensuite, moi, dans les cas où j'écris, quand la famille, par exemple, me le demande ou que je leur propose, ça, c'est une question de feeling. Quand je sens qu'ils ont envie...
Donc, quand il n'y a pas de cérémonie religieuse...
du tout.
Oui, c'est ça. Quand j'ai une cérémonie civile,
vous devenez
en gros,
un prêtre laïque, finalement. C'est on pourrait dire ça
On peut dire ça. Oui, oui, on peut m'assimiler à ça. Je le comprends très bien. C'est l'image. Et finalement, je fais une cérémonie comme lui, quoi, sauf que je ne vais pas prononcer forcément des prières, bien qu'à la demande de la famille, ça ne me pose pas de souci de le faire. Mais quand j'écris, c'est moi qui fais parler les gens. Parce qu'ils ont, ils ont envie de dire plein de choses, mais ils ne savent pas comment les dire, ou alors ils ne se sentent pas capables de le dire. Et moi, je suis là pour les aider. Et donc là, je n'ai plus d'ordinateur. Je prends une feuille blanche, un stylo, et je leur dis, ben voilà, parlez-moi, qui c'était. Et là, tout est bon à prendre. Des anecdotes, les endroits où il est mal, et ceux qu'il détestait, tout. En fait, qui c'était pour vous? Et là, du coup, les gens comprennent que je ne suis pas juste un employé de pompe funèbre. En fait, je suis une oreille. Je suis une épaule, je suis une écoute, je comprends, je rebondis. Et moi, je commence à visualiser la personne. Et en visualisant son caractère, moi aussi, je peux peaufiner mon texte. Si c'était quelqu'un qui était hyper jovial, très optimiste, la tournure de mes phrases ne sera pas la même. Et donc là, du coup, je les laisse parler. Alors, ça peut durer 15 minutes, ça peut durer 4 heures. Ça dépend.
On sent que vous adorez ça, dans le fond. Est-ce que vous n'êtes pas un écrivain public contrarié?
En fait, je ne fais pas de cérémonie, je raconte des histoires. Et c'est ça qui me plaît. C'est une famille qui... Je dis ça parce que c'est un jour une famille qui m'avait dit justement... en fait, vous dites, vous avez raconté une histoire et c'est pour ça que vous nous avez embarqué dans votre histoire.
La mort, en tout cas, est un des derniers tabous, hein, Sébastien Monteau, de nos sociétés où l'espérance de vie ça va tellement reculer au-delà de 80 ans qu'on pourrait presque croire que le deuil est définitivement à distance, sauf que non, quand même pas tout à fait. Alors qu'est-ce que ce tabou change dans l'exercice de votre métier? On va en discuter. Ça sera juste après Grand Corps Malade, Nos Absents.
C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupé d'un réconfort utopiste, à plusieurs on est plus fort mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs. Sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. Rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils sont, ils ont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante, mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur. Nous on a des projets, on dessine nos lendemains, on décide du chemin, on regarde l'avenir entre nos mains. Et au cœur de l'action, dans nos victoires ou nos enfers, on imagine de temps en temps que nos absents nous voient faire. Chaque vie est un miracle, mais le final est énervant. Je me suis bien renseigné, on n'en sortira pas vivant. Il faut apprendre à l'accepter pour essayer de vieillir heureux. Mais chaque année, nos absents sont un petit peu plus nombreux. Chaque nouvelle disparition transforme nos cœurs en dentelles. Mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastelles. Ce temps qui pour une fois est un véritable allié. Chaque heure passée est une pommade. Il en faudra des milliers.
Grand Corps Malade, Nos Absents, 8 milliards de voisins. Vous êtes sur RFI, les voisins et les voisines, et nous sommes en compagnie de Sébastien Monteau. On est avec vous, Sébastien, pas jusqu'au bout du dernier voyage, mais dans l'exercice de votre métier. Vous êtes maître de cérémonie dans une agence de pompes funèbres. Vous avez 31 ans. Vous travaillez dans ce milieu de la mort depuis l'âge de 24 ans. Et pendant toute la chanson de Grand Corps Malade, j'ai vu vos lèvres s'agiter.
Ben, je la connais par cœur. J'ai découvert Grand Corps Malade, même avant de travailler dans le funéraire. Je trouve qu'il a une plume extraordinaire. Et cette chanson-là, Nos Absents, elle me parle énormément. D'ailleurs, ça m'arrive de la passer à la demande des gens. Et alors forcément, il y a des phrases extraordinaires. Chaque heure passée est une pommade, il en faudra des milliers. Ce genre de phrases-là, c'est tellement vrai. C'est tellement ça. Et j'aime beaucoup sa plume.
Ouais. Alors, on est dans un pays, on le disait, hein, où il n'y a plus beaucoup de codes, hein, tout de même de la mort, hein, comparé à d'autres continents, notamment sur le continent africain, où les cérémonies sont tellement grandioses, elles peuvent durer plusieurs jours, elles accueillent parfois plusieurs centaines de participants. Et vous êtes en première ligne, finalement, pour observer cette mort qui reste le dernier grand tabou de notre société.
Alors, c'est paradoxal parce que... Ben, on y passera tous et c'est vraiment le point commun universel de tout le monde, mais on n'en parle pas, on la cache, c'est vraiment voilà, cacher cette mort que je ne saurais voir. Mais je trouve dommage parce que en parler, c'est tellement important, j'en parle dans le livre, ça doit être aujourd'hui un sujet comme un autre.
Et c'est vrai que quand les gens vont se rendre à des obsèques de leurs proches, ils ne racontent pas la cérémonie ensuite aux autres. Ça reste vraiment... on est totalement dans la pudeur. Hein.
Et j'essaye de briser un petit peu ça. Et pour revenir à mon écriture de texte de tout à l'heure, quand j'écris des textes, généralement, je préviens les gens. Parce qu'ils le sentent que moi, je suis très souriant. Évidemment, le sourire doit être dosé. Et on le sent si on peut se permettre d'aller plus loin ou pas. Et j'ai pas du tout pour habitude d'écrire des textes larmoyants de 10 minutes. Et je leur dis, moi, par contre, dans mes textes, je vais y mettre de l'humour. Et les gens, ils sont surpris, mais ils sont contents. Ils disent, mais allez-y. Et j'ai fait des cérémonies où les gens ont pleuré, se sont marrés. En fait, ils sont sortis de la salle. On savait pas s'ils avaient été voir une pièce de théâtre. Et en fait, ils étaient... C'est un exutoire, le rire.
Même dans les deuils les plus dramatiques, parce que entre les obsèques d'un père ou d'une mère de 90 ans et les obsèques d'un enfant décédé, vous citez les obsèques d'un petit garçon qui sont tout à fait terribles, qui avait 10 ans, qui est décédé d'un cancer. C'est pas du tout la même cérémonie pour vous ?
Non, c'est pas du tout. De toute manière, chaque cérémonie est différente à partir du moment où le défunt est différent. Donc, il y a autant de cérémonies différentes qu'il y a d'humains sur cette terre. Et c'est ce qui me permet aussi de continuer, de ne pas tomber dans ce côté rébarbatif. Il y a des gens avec qui on sent qu'on va vraiment pouvoir se marrer. Et il y en a d'autres, pas du tout. Alors évidemment, on ne se marre pas tous les jours, évidemment. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça et c'est eux qui enclenchent ça. D'ailleurs, heureusement que ce sont eux, parce que nous, de notre position, on ne se le permettrait pas. Mais tout est une question après de ressenti, de feeling. Quand je parle aux autres maîtres de cérémonie, je mets l'accent là-dessus, je leur dis « faites-vous confiance, écoutez vos ressentis ». Et tout part de là, vraiment tout part de là. Il y a des gens, on sait qu'on va devoir rester très, très professionnel. Il y en a d'autres, on sait qu'on va pouvoir se permettre d'autres choses, d'être plus proche, plus intime, de les taquiner un peu, certains. Voilà. Mais ça, il n'y a pas de règle.
Mais dans quel
c'est
cas,
vraiment cas par cas.
Dans quel cas, vous, l'émotion vous rattrape, malgré vous, malgré le professionnalisme ou les routines ?
Ça peut être plein de choses. Ça peut être juste une attitude. J'ai un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière. J'avais deux personnes. Donc en soi, rien de bien compliqué de ma position. Pas de musique, pas de discours. Donc j'ai même pas forcément pris la parole.
Quand vous dites deux personnes qui assistaient.
Ouais, deux personnes qui assistaient.
À la cérémonie.
Ouais. Il y avait l'époux et le fils. En fait, ils voulaient absolument rien. Donc nous, on est toujours à l'écoute des gens. S'ils nous disent on veut rien, on va pas leur dire non, mais si, non, ils veulent rien. Ok, on respecte. On peut leur proposer. Est-ce que vous êtes sûr vraiment pas de musique, pas de texte, non, rien. Bon, là, on va pas insister. C'est leur choix et ça se respecte. Et en fait, donc je les invitais au moins un petit instant de recueillement à s'ils voulaient s'approcher du cercueil pour venir faire un dernier geste. Et je leur ai dit, écoutez, je me mets derrière dans la salle. Je vous laisse votre moment. Et dès que vous voulez qu'on fasse le départ, vous me faites un signe. Comme ça, je vous laisse tranquille, je ne viens pas vous voir toutes les 5 minutes. Et en fait, ce monsieur, déjà, il ne parlait pas beaucoup, mais dans son attitude, en fait, il ne parlait pas beaucoup parce qu'il était dans une détresse incroyable. Je le ressentais. En fait, il avait perdu un bout de son âme. Et ça, je le ressentais. Et en fait, il s'est juste approché du cercueil. Il a fait le tour. Il a fait glisser sa main dessus. Et juste, il s'essuie les yeux. Et juste ça. Ça m'a fracassé. Je me suis dit, mais pourquoi ça met dans un état ? Il n'y a rien. Mais je sentais sa peine dans toute la pièce. Alors que des fois, il y a des cérémonies où il y a 500 personnes et je ne ressens pas forcément cette peine. Je ne dis pas que les gens ne sont pas tristes, mais c'est de l'impalpable, c'est de l'énergétique.
Ce qu'on comprend quand vous vous exprimez, quand vous racontez ce métier hein, de croque-mort, c'est que, paradoxalement, vous êtes un hypersensible
oui.
pour déceler le moindre signe, la moindre attente.
Oui, d'ailleurs, c'est une des premières réactions quand j'explique mon métier. Une des premières réactions, souvent, c'est oh, « moi, je pourrais pas faire ce que tu fais, je suis trop sensible ». Et là, ma réponse, c'est « mais c'est parce que je suis trop sensible que je fais bien mon métier ».
Mais comment vous rentrez chez vous le soir, alors ?
Je passe d'abord à la salle de sport, qui est mon exutoire à moi.
C'est le sas entre les deux ?
Ouais, 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 c'est presque une étape obligée. C'est-à-dire que je vais à la salle de sport, bon, j'enlève mon costume, mais j'ai toujours mes émotions. Donc je fais ma séance, là je lâche mes émotions, et après je rentre chez moi, et le costume on le remettra demain matin. Chacun après son exutoire, il y en a ça va être boire un verre entre amis, il y en a ça va être regarder un épisode d'une série, peu importe. Moi c'est vraiment le sport, j'ai besoin de sortir ces émotions qui ne m'appartiennent pas et que j'ai pris aux gens par la dépense physique.
Et vous parlez de costume d'ailleurs, parce que bien sûr bon, vous êtes habillé, vous avez une veste noire, vous avez un costume noir.
Et je vais vous arrêter, je ne suis jamais habillé en noir.
Ah vous n'êtes jamais habillé en noir
non.
vous
là, c'est, d'ailleurs ça tombe
parce
très bien
que vous
en parliez.
Vous parliez des porteurs qui sont tout en
ouais.
noir, qui portent le cercueil.
Ouais, mais alors j'ai été habillé en noir. Aujourd'hui, donc depuis maintenant, ça doit bien faire 4 ou 5 ans, je ne m'habille plus du tout en noir. Et ça fait partie déjà, de manière inconsciente pour les gens, je m'humanise en fait. C'est-à-dire que je casse un cliché sans même qu'ils s'en rendent compte. On leur dit, voilà, le maître de cérémonie va vous rencontrer. Ils s'attendent d'avoir quelqu'un d'un peu austère, habillé en noir, qui regarde un petit peu par terre.
Et puis là, il voit vous arrivez avec un piercing.
Un petit mec arrivé, il a une boucle d'oreille, il sourit, il est habillé en bleu. Mais qu'est-ce qui se passe Mais c'est qui Ah mais c'est un humain en fait. Ah mais il est différent lui. Alors je dis pas ça pour sortir du lot, mais c'est parce que
c'est un humain qui va organiser le dernier
ouais,
voyage.
Ouais. Et d'ailleurs quand je me présente jamais par mon nom, mon prénom. Je ne dis jamais Sébastien Monteau, maître de cérémonie. Je vais vous accompagner. Donc je fais moi c'est Sébastien. En fait appelez-moi Sébastien.
Mais quand vous parlez de costume et quand vous dites que vous placez tout le monde, notamment par exemple, au cimetière, pour voir la descente du cercueil, hein, il faut que les porteurs ne cachent pas le cercueil. Chaque geste, en fait, est important.
À son importance.
Et vous dites qu'il y a une part de théâtre.
Complètement. Oui, c'est ce qu'on appelle après allier le geste à la parole. Il y a des mots qui ont beaucoup plus de force quand on allie justement le geste. Ou l'intonation. Si j'ai le plus beau texte du monde, mais que je ne l'incarne pas, il vaudra rien, le texte, il ne transmet rien. Si une personne était hyper optimiste, toujours souriante, et que mon discours commence par « il adorait la vie, il était joyeux », ça ne correspond pas du tout. Non, il faut que je l'incarne. Il était joyeux. Voilà, faut que les gens le ressentent. En fait. Il faut qu'ils le revoient à travers mes paroles.
Je précise d'ailleurs que vous avez aussi été le vainqueur du concours du Grand Oral organisé par la chaîne France 2 en 2021.
Ouais, ça fait déjà 2 ans. Et tout est parti de là, en fait. D'ailleurs, le livre est parti de cette aventure-là aussi.
Ouais, et d'ailleurs, votre métier presque, parce qu'il y a une formation qui a été un déclic. Hein, c'était au tout début de votre carrière. On vous envoie en formation pour être commercial dans les pompes funèbres.
Être conseiller funéraire.
Conseiller funéraire, c'est ça, pardon. Et vous devez organiser la cérémonie de la mort du Père Noël.
Ouais. En fait, pour la petite histoire, c'était donc la formation était interne et donc on était une promotion, on avait 10 personnes, donc 10 futurs potentiels conseillers funéraires. Et donc la formation était disposée en 3 semaines au siège. La première semaine était sur la législation, la seconde sur la marbrerie et la troisième sur la cérémonie. Et en fait, pour la dernière semaine de formation, on nous avait dit « choisissez un personnage, alors réel ou fictif ». Mort ou vivant, vraiment, vous choisissez ce que vous voulez. Le marsupilami, vraiment, ce que vous voulez. Et moi, déjà là, j'avais cette idée, je me suis dit, je vais faire autre chose, je vais pas prendre que... Je veux que les gens ne s'y attendent pas. Et j'ai choisi le Père Noël, effectivement. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire sa cérémonie. D'ailleurs, on peut voir le petit discours dans le livre. Et ce qui était rigolo, c'est que c'est un personnage, du coup, potentiellement fictif, en tout cas, pour moi aujourd'hui. Mais... Et en fait, quand j'ai terminé la cérémonie et que j'ai regardé mes autres collègues, je voyais qu'ils avaient presque les larmes aux yeux. Et je me suis dit, mais ils sont bien conscients que là, déjà, on est dans une salle de formation, c'est le Père Noël, mais je les ai touchés, juste avec les mots, en fait.
C'est là que vous vous êtes dit, je serai maître de cérémonie, c'est moi qui parlerai.
Ça m'a conforté dans cette idée. J'avais déjà cette idée et je me suis dit, là, je suis à ma place en fait. C'est ça que je veux faire.
Alors, vous êtes passionné, je crois que ça, on l'a compris. Hein, et même ceux qui nous écoutent, j'espère hein, qu'ils regardent peut-être la mort d'une autre façon, ou du moins les obsèques, les funérailles. Les cérémonies ratées quand même, où tout déraille, ça existe, ça vous est arrivé, non?
Ça m'est arrivé, alors où tout déraille, heureusement pas tout, mais ça arrive où il y a des loupés, forcément. Et alors heureusement, là, on va dire, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place justement pour éviter ça. Mais ça peut, oui, ça peut arriver. C'est toujours à nous après de pallier à ça et surtout ne rien cacher. Ne rien cacher. Il faut toujours être honnête avec les gens.
Qu'est-ce qui peut se passer, par exemple?
Mais ça peut être un oubli. Il y a des fleurs. La fleur principale, c'est le dessus de cercueil. Où dessus, il y a écrit, par exemple, à ma maman. Et en fait, on prend toutes les fleurs et on oublie le dessus de cercueil. Et bon, ça la fout mal. Parce qu'on a toutes les fleurs, mais on ne l'a pas. Et là, forcément, on va devoir trouver les mots. Et on ne va pas inventer quelque chose en disant, on ne va pas remettre la faute sur le fleuriste ou quoi que ce soit. On fait une bourde, bon, on l'assume. Et encore une fois, je pense que tout est une manière d'aborder les choses. Ça m'est arrivé, évidemment, de faire des erreurs. Mais presque, les gens m'en ont pas voulu. Parce que je pense qu'ils devaient tellement me sentir désolé profondément, et que j'étais moi-même mais vraiment désolé pour eux, qui se sont dit « Ah mais écoutez, ça arrive, l'essentiel n'est pas là. » Et en fait, ils m'ont enlevé, eux, une épine du pied, et moi, toute la cérémonie, ça me tracasse. Parce que je suis un perfectionniste, et je me dis, mais quel con. Mais les gens, finalement... m'en ont jamais voulu.
Qu'est-ce que vous retenez? Parce qu'aujourd'hui, quand même, plusieurs années après, combien de cérémonies de mise en bière, de fermeture de cercueil, combien de visages de défunts aussi ont défilé dans ces années de 24 à 31 ans?
Il y en a eu...
Vous savez combien
Non, j'en ai aucune idée.
Vous n'avez pas compté?
Non. Bon, un petit calcul matin après. Une le matin, une l'après-midi, pendant 8 ans. Donc ça fait.
Vous avez cette faculté quand même d'oublier.
Mais alors c'est pas. Je pense que c'est presque une autoprotection inconsciente. C'est-à-dire que j'oublie le visage des défunts, mais je pense que c'est mon cerveau qui le fait volontairement pour pas justement que je rentre chez moi avec cette image. Je me souviens des vivants, mais pas des défunts.
Et vos propres funérailles, est-ce que vous y pensez parfois? Est-ce que vous avez fait vos choix?
J'y pense.
Parce que les catalogues, vous les connaissez par cœur. Hein.
Mais pas du tout.
Le cercueil parisien, le cercueil lyonnais, alors, il y a un nombre de modèles.
J'ai déjà réfléchi, ouais. Et j'en parle d'ailleurs à mes parents, parce qu'on ne sait jamais.
Alors aujourd'hui...
L'ordre des choses est souvent bafoué, donc ça peut très bien, je ne sais pas où je serai demain. C'est peut-être ma dernière radio, qui sait. Mais ouais, j'en parle et ça m'a permis aussi de... Moi, j'ai toujours ce problème-là. Parce que moi, je veux être, par exemple, avec mes parents. Sauf que mes parents n'ont pas le même caveau familial. Et là, on en revient à la question qu'on évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut être à deux endroits différents? Et donc, la seule option pour moi n'est pas légale, en fait, finalement. Parce que je voudrais être avec mon père et avec ma mère. Mais comment je fais? Voilà, donc je sais pas, je me laisse le temps, j'espère avoir le temps.
En fait, vous réécrivez un peu le divorce de vos parents, d'une certaine manière. Hein.
Ouais, le divorce de mes parents a été quelque chose de très difficile pour moi. Je pense que ça m'a permis aussi de grandir, de comprendre certaines choses. Je pense que ça, je me suis rendu compte aussi grâce à ça, à quel point je les aimais. Et qu'aujourd'hui, je préfère les savoir séparés mais heureux, plutôt qu'ensemble finalement et malheureux, quoi.
Sébastien Montaud, aucun danger de déprime à la lecture de votre livre.
Au contraire, je
le précise. C'est plutôt une jolie sérénité. Ça s'appelle Chronique d'outre-tombe, un croque-mort bien vivant. Et c'est édité chez Fayard. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission?
Avec grand plaisir.
Dans quelques instants, un petit peu d'eau fraîche avec notre série Le Monde des Enfants. Ce sera juste après. Suvjan Stevens, Death with Dignity. Spirit of my silence, I can hear you.
Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us. But I don't know where to begin. But I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me.
tired old mare with the wind in your hair. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window and of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove.
8 milliards de voisins sur RFI. Nous retrouvons maintenant notre série Le Monde des Enfants, qui est disponible aussi en podcast. Leur regard sur le monde d'aujourd'hui nous intéresse, et surtout sur de grands sujets comme l'amour, le pouvoir, l'admiration. Et aujourd'hui, on écoute Inès, Anaël, Serena, Cesario, Powell, Chiwan et Neil. Ils ont entre 9 et 10 ans, ils sont béninois, élèves à l'école privée Le Petit Poussé à Cotonou, et ils imaginent au micro de Charlie Dupio la vieillesse.
RFI.
Le monde des enfants.
On discute entre nous, entre enfants.
On sera tout ridé, avec des rides, partout. Quand on sera vieux?
Quand on a les rides, là, on devient vilain.
On aura mal à la hanche, on sera entre garder la canne chaque jour, on sera entre se plaindre quand on sera vieux.
On aura mal au dos, on va avoir des cheveux gris aussi.
Moi, je pense que je serai aussi toujours aussi belle, que je pourrais même porter des talons.
On se sentira, on se rappellera des moments où on était jeune et on dira que ces moments nous manquent.
Moi, je pense qu'on aura d'autres idées dans la tête, mais qu'on va se dire qu'on ne peut plus les réaliser parce qu'on est déjà vieux.
Parce qu'on sera trop vieux pour faire des activités de jeunes.
Quand on sera vieux, nous, on savait tout faire avant, c'est nous qui étions à la mode. Maintenant, on sera démodé, on va utiliser encore YouTube, les choses comme ça, au lieu que de nouvelles applications seront sorties. La technologie aura avancé pendant que nous, on sera en arrière.
On va encore continuer à chanter les chansons des anciens temps. Et ce sont nos petits-enfants qui nous ont dit, c'est plus à la mode qu'il y a d'autres artistes qui sont venus.
Vous serez un peu ringard.
Oui, c'est oui. Ça.
Nos grands-parents sont pas ringards. Parfois, c'est même eux qui nous apprennent certaines choses. Moi, ils m'ont appris à compter et à dire l'alphabet français jusqu'à Z. Avant, ils avaient dit jusqu'à E.
Moi, je pense que les grands-parents, ils nous apprennent beaucoup de choses. Ils nous donnent de bons conseils. Parfois, je pense que les grands-parents, ils sont des sages.
Ils disent que la vie est un cadeau, même si elle n'est pas toujours rose.
Ils disent que l'amour, c'est un piège, mais que tout le monde tombe dedans.
Ils disent aussi que l'amour, c'est aigu, que c'est pas trop pour nous.
C'est tes grands-parents qui disent ça?
Oui, ils disent que je suis trop petit pour ça.
J'ai une question pour Cesario. S'ils te disent que l'amour, c'est pas pour ton âge, est-ce que tu es déjà tombé amoureux?
Oui.
Et de qui?
On ne va pas savoir, on n'a pas besoin.
Par pitié, dis-nous.
C'est personnel.
Ça veut dire quoi le mot vieillesse? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire des personnes âgées, on les voit, ils sont âgés physiquement, mais ils sont plus expérimentés mentalement que nous.
Moi, je pense que la vieillesse, c'est devenir plus sage.
Oui, j'aime ma grand-mère, elle est toujours plus forte. Et même si je ne connais pas des choses, elle m'explique et elle me dit que c'est ça ou pas.
Moi, ils m'apprennent des choses d'histoire parce qu'ils sont de l'ancien temps et les choses colonisateurs, tout ça, ça s'est passé avant. Donc, si je ne comprends pas un peu ma leçon, je peux les demander, ils vont m'expliquer. Et parfois, au CM1, notre médecin a dit de chercher la ligne nationale d'avant et ils connaissaient.
Ils nous aident à faire des devoirs d'histoire, ce qui se passait dans les temps anciens, quand ils étaient jeunes.
Tu as plus d'expérience, du coup tu connais plus de choses.
Comment vous espérez vieillir?
Moi, j'aimerais bien que quand je vieillisse, que des gens me respectent, qu'ils ne disent pas que je suis fou un peu mentalement, que je suis un peu ridée, que je ne connais rien.
Moi, j'aimerais être en forme et ne pas avoir de rides.
Moi, j'aimerais être comme la maman des Kardashian. On ne m'a pas ressenti que je suis vieux. On dirait même pas qu'elle est vieille. Oh, qu'elle a la cinquantaine, on dirait déjà.
Mais pourtant, elle est trop belle, trop jeune. La maman des Kardashian.
Elle peut encore défiler de mode.
Moi, je trouve que si un garçon vieille, il sera vilain. Mais si une fille prend soin d'elle, pas sûr.
Et c'est un garçon qui le dit.
Oui. Mais si moi, je deviens vieux, je vais toujours être robuste. Ça, c'est clair.
Robuste?
Oui, toujours être musclé.
Si tu dis que tu seras robuste, ça veut dire que tu peux monter dans un terrain de boxe et tu pourras gagner?
Impossible.
Moi, j'ai peur de devenir vieux parce que le vieux ne peut pas faire le sport. Et moi, j'adore faire le sport.
Qu'est-ce que tu fais comme sport?
Le football, le basketball, la course.
Comment tu vas courir si tu es vieux? Je peux courir un peu lentement pour que mes pieds ne restent pas au repos.
Comment vous vous sentez par rapport à la vieillesse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur?
Oui, ça me fait peur parce que on peut partir de ce monde.
Mais on ne sait pas quand on va le quitter, ce monde.
Moi, j'ai peur que je meure après que les gens ne vont pas venir à mon enterrement.
Moi, j'ai peur de la vieillesse parce que si je commence un métier et je prends la retraite, je meurs, ils vont plus se rappeler de moi. Plus personne ne va se souvenir de mon nom.
Mais qui te dit qu'ils vont t'oublier?
Personne. Mais certains, ils vont s'en foutre. Celui-là, il n'a jamais existé. Mais moi, la façon dont j'ai envie de mourir, c'est un beau matin, me lever, manger. Ce soir, je meurs, c'est fini. Au lieu de mourir dans un accident, par une maladie, j'ai envie d'une mort simple.
Pour moi, la vieillesse, là, c'est comme si on avait dans la tête une bibliothèque.
Et on classe chaque moment avec un livre.
Pour moi, quand un vieux meurt, là, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Parce que toutes les informations qu'il avait là, ça disparaît.
Sébastien Monteau, vous avez écouté attentivement cette série Le Monde des Enfants. Bien sûr, les voisins et les voisines, vous retrouvez hein, ces témoignages, ce regard du Monde des Enfants en podcast.
Plein de choses intéressantes dans ces discours. On dit souvent la vérité sort de la bouche des enfants. Je vais parler du souvenir. Et moi, ce que je dis d'ailleurs aux gens, c'est justement, ils ont peur de l'oubli. Et en fait, pour moi, l'oubli, ça arrive qu'une seule fois. C'est en fait, on oublie. Les gens ne disparaissent que lorsqu'on les oublie, c'est tout. Quand une personne décède, je veux dire, c'est son corps physique, donc c'est une enveloppe, en fait, c'est une carrosserie, mais l'âme, elle est éternelle. Et en fait, mon grand-père que j'ai perdu en 2005, pour moi, il est plus là physiquement. Mais il est toujours avec moi, il est dans mes paroles, il est dans mon cœur, il est dans mon sang, il est dans ce livre. Et au sens...
Il est beaucoup dans ce livre, d'ailleurs.
Il est beaucoup dans ce livre. Et,
surtout quand on vous propose de passer un disque qui s'appelle Secanto, hein, et que c'est une musique qui a un fort lien avec votre grand-père.
Ouais, que j'écoute encore aujourd'hui,
et
qui est encore
bourré
d'émotions.
Et que vous avez du mal à passer dans une cérémonie funéraire.
Ouais, ça fait partie des chansons qui me provoque encore beaucoup d'émotions, ce qui est normal. Et je souhaite garder cette émotion, parce que ça veut dire que je me souviens encore.
Sébastien Monteau, maître de cérémonie funéraire, vous publiez Chronique d'outre-tombe, un croque-mort bien vivant. C'est paru chez Fayard. Merci à vous.
Mais merci beaucoup.
D'être
merci
venu partager ce quotidien
avec
qui nous semble
plaisir.
Si insolite et aujourd'hui si proche de nous grâce à vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
8 milliards de voisins, merci à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Damien Roucoux, Valentine Lemaire, Divine Berthoud, Romain Dubrac à la réalisation à la technique. Et nos émissions sont bien sûr disponibles en podcast. Dans quelques instants, le journal sur RFI.